Galérer à avoir un rendez-vous, c'était tout le monde qui m'appelait en urgence. J'avais les chefs de tous les services, c'était super. Chef de gastro, chef du service viscéral, chef de... Je savais même pas que ça existait, la radio digestive. Tous les rendez-vous en urgence. J'ai été opérée le 7 mars, 3 mois, jour pour jour, après que je sois allée aux urgences, alors que ça faisait plus de 2 ans que je hurlais dans le désert. Et là, en 3 mois, j'étais sur le billard. Et donc, ils m'ont enlevé la tumeur qui était sur le corps du pancréas, et plus la queue du pancréas, et la rate, qui allait très bien, mais par mesure de précaution. Puisqu'ils ont dit que j'étais jeune et en bonne santé, juste un cancer du pancréas, et à côté de ça, j'étais... Qui voulaient mettre toutes les chances de mon côté. Voilà, pourquoi ils m'ont tout enlevé, et qu'ils ont coupé très large. Et la chimio derrière, pour être sûr de mettre toutes les chances de mon côté, parce qu'a priori, j'avais pas de métastase, et pour l'instant, je n'en ai pas, et je touche du bois, voilà quoi. Si je ne m'étais pas battue et si j'avais pas eu mon médecin traitant qui m'a écouté depuis le début, ouais, bah, je ne serais plus là, hein, c'est évident. C'est la bataille permanente. Pour arriver au diagnostic, pour arriver à ça, enfin bon, après, je te passe les violences pendant mon opération. On m'a enlevé la morphine au bout de 2 jours, la pompe à morphine, parce que comme j'appuyais sur le bouton, ils ont dit « Ah ben c'est une tox, du coup on va lui enlever la morphine » et ils m'ont filé du Doliprane. Donc en fait, ils m'ont enlevé 2 organes et ils m'ont filé du Doliprane. Bon, ça a été un peu compliqué, hein. J'ai passé 10 jours en enfer total, avec des douleurs qui ne sont pas imaginables. Ils m'ont envoyé d'abord un psy, après un psy d'addicto, qui m'a dit « Mais moi, je peux rien faire pour vous, en fait. » C'est que même si j'avais été tox, en fait, on ne fait pas ça. Et en plus, ça, c'est même pas la question. Il ne voulait pas prendre mon médecin, parce que mon médecin traitant avait proposé. Il a dit « Mais qui m'appelle ? Moi, je vais leur dire que vous supportez hyper bien les antalgiques et que c'est pas possible, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, quoi. On ne donne pas du Doliprane ni du Spasfon à quelqu'un qui vient d'enlever 2 organes, quoi. » Enfin, bon, ça a été l'enfer. Donc, je sors de l'hôpital dans un état lamentable. J'apprends que donc pas mal de mes voisins ont la même chose que moi, ce qui est quand même assez dingue parce que j'habite dans un petit hameau et qu'à un moment, je me dis « Ah, statistiquement, ça fait beaucoup quand même. » Et peu de temps après, donc le 9 avril, je rencontre donc mon oncologue qui me dit que l'origine est environnementale et que je coche toutes les cases et que c'est évident. Donc ça fait beaucoup, beaucoup en fait qui s'était accumulé quand même. Évidemment que dans la colère, il y a la dimension politique dont on parlait tout à l'heure. Après, c'est un truc assez global parce qu'on peut parler aussi du système de soins qui est défaillant, qui est patriarcal, qui est violent. Enfin, c'est un ensemble de choses en fait qui fait qu'à un moment, on se dit bah, « soit je me laisse crever, mais c'est pas trop mon envie en fait, ni ma personnalité. Soit bah, là, je pars au combat parce qu'il n'y a que ça à faire en fait. » Bah là, ça tombe bien parce que pour la première fois de ma vie, je suis à la mode parce que paf, il m'arrive ça. Il y a la loi du plomb, il y a le cancer colère, il y a le cadmium. Je me dis bon, bah c'est là que ça se passe, faut y aller quoi. Et là, ça se voit aujourd'hui, ce week-end, c'est que là, oui, on se retrouve tous. Ouais, là, on est au cœur des luttes qui ont du sens et qu'il faut porter en ce moment. Il faut quand même vraiment avoir en tête que quand on vit ce que je vis, en fait, on a un niveau de fatigue qui est difficile à expliquer. Il y a des brouillards mentaux qui sont difficiles à expliquer. J'ai un peu de mal à avoir de la distance, à voir, j'entends pas forcément ce que je dis et tout ça, parce qu'il y a vraiment un niveau de fatigue et une part de brouillard mental que les gens perçoivent pas. Et donc on fait notre mieux pour être là, mais en vrai, physiquement, c'est vraiment une gageure. C'est difficile et de parler et d'écouter ce que je dis, parce que c'est vraiment beaucoup d'énergie. Parce que les gens se rendent pas compte forcément. Par exemple, moi là, j'ai de la morphine dans mon corps, que j'ai l'habitude de faire avec. J'ai pris des médicaments, d'autres que la morphine, pour tenir ce week-end. Et je tiens, pour revenir à ce que je disais, sur cette histoire de MeToo, voilà, c'était ça, parce que justement, on parlait du fait que j'ose espérer que ça n'est pas en train d'arriver, et que ça n'est pas en train d'arriver aux autres, mais que pourquoi on est là, qu'au début, je n'osais pas dire que j'avais un cancer, et encore moins du pancréas, et qu'en fait, c'est grâce à Cancer Colère que j'ai compris que non seulement je pouvais, mais que je devais le dire. J'ai compris qu'en fait... On nous intimait l'ordre de le cacher parce que invisibiliser la maladie, c'est invisibiliser les problématiques qu'il y a autour et que c'est très pratique. Notre rôle justement maintenant, c'est de dire bah non, on ne va pas rentrer dans ce truc-là. On va le dire, bah oui, nous sommes malades, nous n'avons pas honte d'être malades, nous ne sommes pas responsables de nos maladies. Et à partir du moment où moi j'ai compris ça, que je pouvais le dire, je me suis aperçue que tout le monde venait me voir. Et en fait, c'était ça, Cancer Colère. Fleur a commencé à essaimer ses graines. Et maintenant, quand on vient et qu'on a nos badges Cancer Colère, quand on vient à des endroits comme là ou n'importe où, tout le monde vient nous voir en nous disant « Moi aussi, je suis malade. Ma fille est malade. Mon frère est malade. » Et tous ces gens qui n'osaient pas le dire et qui commencent enfin à le dire. Et il y a un MeToo Cancer et c'est important. Et il faut que ça continue. Parce que invisibiliser, c'est trop facile. Et quand ils comprendront qu'on ne se laissera pas faire, si nous, dans l'état où on est, dont je parlais tout à l'heure, physique, là on en est au point de colère et de ras-le-bol, de ce mépris et de cette violence, qu'on est capable de se faire mal à monter sur des manifs, à monter sur des actions qui nous demandent beaucoup physiquement, il faut qu'ils comprennent qu'en fait on n'a pas de limite. On a une détermination qu'ils se sont complètement sous-estimée. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas possible d'être plus déterminé qu'on ne l'est.
On connaît tous quelqu'un qui est malade.
Oui, ben oui. Il y a aussi plein de gens qui ne le disent pas, quoi. Et puis, ce n'est pas que les cancers. Les scléroses en plaques, il y en a de plus en plus. Les problèmes d'infertilité, c'est aussi concerné par les violences chimiques. Enfin, on le sait aussi. Et c'est vrai que tout le monde ne fait pas le lien. On est là pour ça, pour le dire. Mais on ne dit pas que 100% des maladies sont liées aux violences chimiques, bien entendu. Ce qu'on dit, c'est que... Alors, ce n'est pas nous qui le disons. Hein, c'est le Centre international de recherche contre le cancer qui dit que c'est entre 40 et 50% juste des cancers qui sont d'origine environnementale. Il y a d'autres maladies. Ça, c'est ça en trop et que c'est évitable. C'est bête, mais j'ai envie de faire une petite parenthèse sur la sécu, mais pourquoi il y a un gros trou l'espèce d'endettement artificiel avec le Covid, tout ça. Mais c'est quand même intéressant par rapport au cancer parce que ça coûte une fortune. Moi, on m'a dit juste mon cancer, que ça coûte à peu près 100 000 balles. Parce qu'il faut compter les traitements, il faut compter les trajets, il faut compter les imageries, il faut compter tout ça. Je ne suis même pas sûre que quand on compte ça, on compte tous les soucis à côté. Parce qu'en fait, quand on a un cancer, c'est pas juste. Moi, on ne s'occupe pas que de mon pancréas et de mon cancer. Parce que ça dérègle, ça donne des soucis gynéco, ça dérègle sur plein de trucs, d'ostéoporose, machin. Enfin, c'est des trucs en cascade. Et ça, je ne suis même pas sûre que ce soit compté dans les trucs à sécu. Il faut juste voir la bascule de l'argent, en fait. L'argent qu'on donne à Bayer pour payer ces traitements-là. Est-ce qu'on veut qu'il y ait moins de malades et sauver la sécu? C'est facile. En fait, si on arrête de rendre les gens malades, eh bien, on sauve la sécu. Et c'est hyper fastoche, en fait. Il y a un moment, il y a des choix. Le choix, il a été fait de faire différemment, de prendre du pognon d'un côté pour rendre les gens malades et de redonner du pognon aux mêmes pour qu'ils soignent ces mêmes malades en les accusant de l'autre côté, en les incriminant de l'autre côté, en les culpabilisant, parce qu'en plus on leur dit, et c'est ce qu'on nous dit quand même ces derniers temps, attention, attention au trou de la sécu, c'est de votre faute, il va falloir payer plus, on va commencer à dérembourser et à faire chier les affections longue durée. Et après on nous dit, mais pourquoi vous êtes en colère? Parce qu'on nous reproche, en cercant l'air parfois, le terme de colère. Je trouve ça assez surprenant, en fait, qu'on nous reproche ça. Si dans cancer, colère, on devait changer un terme, ce serait cancer, parce que ça ne touche pas que les cancers. Mais colère, je vois difficilement comment on pourrait le modifier. Alors après, nous, on en fait une colère constructive. On le voit dans les actions qu'on mène, dans la manière qu'on a de porter notre message. C'est une colère qu'on essaye de rendre la plus constructive possible, et même joyeuse. On chante même à cancer, colère. On l'a entendu le 11 février, et là on va rechanter samedi prochain. Voilà, on rend ça constructif et joyeux. Mais la colère, elle est là parce que c'est pas possible de dire qu'on tue des gens, qu'on rend des enfants malades pour pouvoir perpétrer un modèle économique, pour pouvoir faire plaisir à des multinationales, parce que c'est quand même ça. Enfin, sacrifier des vies, des enfants, pour maintenir un système qui s'auto-détruit, qui détruit pas que la planète, qui est en train de s'auto-détruire, c'est complètement délirant. Et on nous fait passer pour des fous.
Oui, mais tu sais, la colère, c'est mal, faut se mettre des petits pouces bleus sur Facebook, faut être de bonne humeur, faut faire du yoga.
On me l'a déjà conseillé, le yoga. Je conseille à personne de me conseiller de faire du yoga. Les gens qui nous disent de faire du yoga...
C'est ce qu'ils veulent, les gens, que tu portes un badge cancer bonne humeur?
Ben oui, c'est tellement cool. C'est tellement cool de
faire sourire.
Ouais. Pourtant, moi je souris et on est là, il n'y a pas de problème. On est en colère, ouais, mais pourquoi on est en colère et pourquoi on est là? Parce qu'on veut de la vie, parce qu'on est encore vivant et qu'on veut le rester vivant et parce qu'on se bat pour la vie et qu'on a une putain d'envie de vivre, quoi. C'est pour ça qu'on est là et que, bah ouais, on a envie de sourire. On veut être vivant pour sourire et pour ce qui est beau. Et c'est la colère qui nous amène à nous battre pour ça.
Grâce au glyphosate, on a tous une grosse prostate. Grâce aux fongicides, on n'a plus de thyroïde. Haute valeur environnementale, Bayer, Monsanto. On a tous droit à la chimio. Grâce au chlordéco, on se fait changer les poumons. Merci Bayer, Monsanto. C'est dans l'eau. Bayer, on t'a tous dans la peau. Tu nous débarrasses des oiseaux qui font caca sur nos chapeaux. C'est dans la terre et c'est dans l'eau. Bayer, on t'a tous dans la peau. Tu nous débarrasses des abeilles. Ils font peur à ma tante Mireille. Ah, 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 la queue neuneu. Ah, 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 la queue neuneu. Tout, tout, tous les cancéreux traînent la savate à la queue neuneu.
Le glyphosate par nos confitures, on vous l'a déjà joué et on vous le rejoue. Extrait du disque L'eau qui mord, avant de retrouver Caroline Proust du collectif Cancer Colère. Et on revient sur ce délirant déni de science. Vous avez entendu parler des climato-sceptiques ? Eh bien, il y a aussi celles et ceux qui font semblant de douter que les poisons mortels fabriqués par Bayer Monsanto et imposés par l'agro-industrie ont une responsabilité écrasante dans l'actuelle épidémie de cancer.
J'ai envie de parler de Marc Billot, directeur émérite en cancérologie au CNRS, qui trouvait ce terme et cette analyse de cancer backlash, c'était en janvier. Il a dit, mais en fait, là, on a un moment où effectivement, il y a un discours qui est en train de se développer pour dire que l'épidémie de cancer et de maladie donc, vient des comportements individuels et qui est en train, petit à petit, de dénigrer la science. Et donc, Marc Billot, avec un confrère à lui, ont théorisé de manière très pertinente ce cancer backlash. Il parle aussi beaucoup des inégalités sociales et de tout ce qui tourne du coup autour de tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est qu'il y a des gars qui écrivent dans... En gros, dans l'Express et Le Point, hein, ça c'est toujours... pour aller expliquer que Marc Billot raconte n'importe quoi. Mais c'est pas que Marc Billot. Après, c'est beaucoup d'autres chercheurs, scientifiques, tout le monde. Et donc, soit ils s'en prennent aux scientifiques, nommément les uns après les autres, soit avec Omnibus, ils se sont dit, bah tiens, on va faire mieux. On va partir du principe qu'on emmerde la science. On fait comme si elle n'existait pas.
De la gueule de Trump, en fait, on fait exactement la même chose ici.
De toute façon, Omnibus, c'est ça. Omnibus, c'est la Trumpisation de l'appareil législatif européen.
C'est ce package de lois de protection de l'environnement, etc., qu'on fait sauter par pan entier.
Ouais, c'est ça, en fait. Omnibus, c'est un outil législatif européen qui permet d'avoir des leviers sur plusieurs sujets en même temps. Omnibus, c'est comme un train qui emmène tout sur son passage. Quand ils veulent changer un petit truc qui pourrait concerner plusieurs lois, de ne pas avoir à sortir toutes les lois et d'être obligé de discuter, de se concerter, de voter des trucs un peu long et chiant sur chaque loi. Donc ils se disent, bah tiens, ça va concerner plein de trucs. Et donc là, le sujet, c'est de simplifier, donc avec toutes les guillemets, simplifier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déréguler. Omnibus, il y a en gros 10 gros paquets de lois. Par exemple, dans le 1, on va retrouver la fin de la protection des droits humains. C'est juste ça, hein. On est sur des petits détails comme ça. Parce que le droit européen, jusque-là, disait aux entreprises qu'elles étaient responsables du respect des droits humains, entre autres. Il n'y a pas que. Il y a aussi de l'impact environnemental et de plein d'autres choses. Mais le droit européen disait, voilà, les multinationales sont responsables pour elles et pour toute la chaîne de production de leur impact environnemental et du respect des droits humains et d'un certain nombre de règles. Et là, Omnibus, il dit, ouais, en fait, non, finalement, ils vont être responsables que d'eux-mêmes, pas de la chaîne de production, ils rabotent de partout, et donc ça ne concerne plus que quelques grosses multinationales et en rabotant un peu de tous les côtés, quoi. Donc, en gros, c'est de dire, on s'en fout un peu des droits humains, on n'est plus responsable de ça. Et de l'impact environnemental. Donc ça veut dire qu'en fait, des entreprises européennes, là, elles peuvent sous-traiter aux Ouïghours ça pose aucun problème. Ça devient légal avec Omnibus. Je ne sais plus si c'est 7 ou 8 sur les cosmétiques. Cosmétiques, c'est aussi pas mal en termes de produits chimiques et tout ça. Et donc le 10, c'est sur la sécurité alimentaire. Donc ça touche toute la dérégulation sur les pesticides, tout ça. Les pesticides qui vont être autorisés, les molécules qui sont autorisées, ça va être illimité. C'est-à-dire qu'on ne demande plus à la science de confirmer qu'il n'y a plus de toxicité. C'est dire, clairement, on s'en fout de la science. Là, en fait, ce qu'il faut, c'est introduire un maximum de molécules et puis on enlève les garde-fous et clairement, enfin, il s'écrit noir sur blanc, on s'en fout de la science, quoi.
Et on fait sauter le principe de précaution.
Bien sûr. D'ailleurs, la FNSEA, ce week-end, est en train de bosser là-dessus, à Caen.
Supprimer le principe de précaution, ouais. C'est-à-dire qu'on peut utiliser n'importe quelle chimie, etc., sans études préalables sur les impacts éventuels que ça va...
En même temps, c'est pas comme si c'était super respecté en ce moment, mais c'est vrai que théoriquement, il existe toujours le principe de précaution en France et en Europe. Il est pas mal bafoué, mais là, c'est vrai que la FNSEA est en train de bosser pour que ce soit objectivement, officiellement sauté. Il y a la LUA qui arrive, il y a tous les outils législatifs de la FNSEA qui sont en train de se mettre en place avec ça. Et donc là, on sait que ce week-end à Caen, ils sont en train de bosser là-dessus, quoi. Faire sauter le principe de précaution. Oui. Bon, la FNSEA, c'est pas complètement fou de se dire qu'ils bossent pour eux-mêmes, donc c'est normal, que Rousseau défend d'avril, bon, il y a un côté logique. Mais c'est vrai que nous, ce qui nous attriste, et on en parlait ce matin du syndrome de Stockholm.
Le syndrome de Stockholm, à la base, c'est quand des gens pris en otage, en fait, prennent le parti de leurs ravisseurs et par extrapolation. Aujourd'hui, nombre d'agriculteurs qui utilisent ces produits chimiques, qui vivent dedans, sont les premiers à en mourir, mais défendent malgré tout ce système qui les fait crever.
Effectivement, il y a l'aspect sanitaire de... C'est évident, qu'ils sont le plus proche et qu'ils sont ultra nombreux à être contaminés et souvent ils s'en rendent compte trop tard. Donc oui, ce sont les premiers touchés d'un point de vue sanitaire, mais même d'un point de vue économique. La paysannerie crève de ça, crève de l'agriculture intensive, d'expansion de la machinisation, de tout ça. Les seuls à qui ça profite, ce sont les industriels. Ce ne sont pas les paysans et les agriculteurs.
Sauf les quelques gros qui restent, quoi.
Oui, mais les gros, mais du coup, ce ne sont pas les paysans.
Mais sont-ils encore paysans?
Non, mais c'est ça, ce ne sont pas les paysans. D'où le syndrome de Stockholm, à deux titres, donc à la fois économique et sanitaire. Les gars sont emprisonnés dans un truc et sont les premières victimes. Nous, ça nous paraît toujours important de rappeler que Cancer Colère se bat avec les paysans et que pour les paysans qui ne sont pas forcément tout de suite conscients qu'en fait, on se bat aussi pour eux. Mais après, j'ai l'impression que c'est quand même un peu toute la vie militante depuis que je suis née, où souvent on se bat pour des gens qui ne comprennent pas qu'on se bat pour eux. Parce qu'on se bat jamais pour nous et qu'on se bat pour le collectif et que le collectif c'est eux aussi et qu'on espère qu'à un moment ils vont comprendre que c'est pour eux aussi, quoi, qu'on n'est pas contre.
En plus, la FNSEA dans ses objectifs annonce que son objectif c'est de limiter au maximum le nombre d'exploitants agricoles, on parle plus de paysans,
bien sûr,
pour qu'il n'y ait plus en France que quelques grosses fermes usines gérées par des robots de la pseudo-intelligence artificielle. Enfin, bon, voilà, on voit des petits qui se battent pour défendre ce modèle qui les fait crever.
Ce qui est dingue, c'est de se dire qu'ils sont quand même assez doués d'avoir réussi à faire croire à des gens, enfin, je pense évidemment à la coordination rurale.
Pseudo-syndicat agricole proche du Front National.
Voilà. Certains agriculteurs qui ont rejoint la coordination rurale parce qu'ils sont manipulés et perdus, et parce que les gars, ils sont tout seuls dans une situation de détresse comme la plupart des paysans, et qu'on leur fait croire que c'est de... mettre des pesticides. Alors, j'arrive pas à comprendre quand même comment on peut croire qu'en empoisonnant la terre, on va mieux travailler. Mais parce qu'on leur fait croire ça, moi je trouve ça triste qu'ils comprennent pas qu'en fait, c'est pour eux qu'on se bat, quoi.
Oui, puis qui sont les premières victimes de ces maladies.
Ouais.
En plus, le pire, c'est qu'ils le savent. Dans les familles d'agri, etc., il y a des maladies. C'est les premiers touchés par les saloperies qu'ils emploient. Donc, ils le savent. C'est incroyable.
Non, mais complètement. Non, mais ça, parce que bon, évidemment qu'il y a une partie de la CR qui sait très bien ce qu'elle fait. Mais il y a certains agriculteurs, on a envie de leur dire, mais hé, mec, pose-toi, on va discuter. Et en fait, regarde vraiment où est ton intérêt, quoi. Ton intérêt, il n'est pas là.
Là où tu vis, tu disais qu'il y a d'autres cancers
de
gens, voilà. Et tu fais le lien entre les pratiques agricoles qu'il y a autour de chez toi et vos maladies.
Je ne peux pas le faire objectivement. Je suis dans une zone rurale très agricole. Donc hier, avec Clarisse, on parlait d'intuition. Mais moi, je ne veux pas incriminer des gens personnellement, en fait. Et je ne veux pas, surtout pas dire des conneries. Parce qu'en fait, à Cancer Colère, on est un peu bête. Quand on cite des chiffres sourcés. Et quand on dit des choses, on dit que des choses vérifiées. Donc là, jamais je ne vais aller dire mon cancer, il vient d'un tel, de telle parcelle. En fait, j'en sais rien. Ce que j'énonce, c'est le modèle. Et en plus, je ne veux pas incriminer, comme je disais, personnellement, le paysan d'à côté, qui lui-même, peut-être, est enfermé dans un système qui ne maîtrisent pas, parce qu'on les fait s'endetter, les gars, on les fait acheter des machines. On leur... Je veux dire, à un moment, ils se retrouvent avec des dettes qu'ils n'auraient pas demandées. C'est tout un système. Et donc, nous, ce qu'on dénonce, c'est le système. Et moi, je ne vais pas aller voir mon voisin et lui dire mon cancer est de ta faute. Je ne vois pas l'intérêt. Après, oui, je constate que autour de chez moi, ouais, je ne suis pas la seule. Après, est-ce que c'est vraiment que chez moi? Je ne crois pas. Quand les gens me disent bah, est-ce qu'il faut déménager? Ben non, parce qu'en fait, tu auras le même problème ailleurs. Ce n'est pas vraiment la question. La question, c'est le modèle qu'il faut changer. Et puis oui, si, évidemment, si à titre individuel, certains voisins arrêtaient de mettre du glyphosate partout, oui, je préférerais. Parce qu'on voit ça hein, aussi, des particuliers. J'ai eu ça devant chez moi, de l'herbe toute jaune pendant longtemps. Et on hurlait auprès du voisin. Et il me disait, ah, je fais ce que je veux, c'est chez moi. Bah ouais, t'as raison, c'est à 50 cm de ma porte. J'ai eu ça pendant des années. Je peux pas m'empêcher de me demander si à un moment... Cette herbe jaune qui était devant chez moi, parce que peut-être glyphosate, il y a une incidence ou pas, j'en sais rien, je ne peux pas pointer. Et puis les cancers, les maladies, ces maladies-là, c'est aussi pareil. Ce qu'on essaie d'invisibiliser, c'est l'effet cocktail. L'effet cocktail, c'est l'accumulation et c'est l'interaction des différentes molécules et de ce qu'on se prend au fil des ans dans la tête et par différents biais. Ça, ça leur fait plaisir parce qu'en fait, quand il y a des études, et il n'y en a pas tout le temps sur certaines molécules, déjà, la plupart du temps, c'est souvent les labos des producteurs des molécules.
C'est comme les gendarmes qui font des enquêtes sur les gendarmes.
Oui, mais c'est ça. Mais ils auraient tort de se priver, en fait, tant qu'on les laisse faire, les gars. On leur dit, faites vos études et puis on va les prendre comme ça. Alors, donc, ils font leurs propres études et ils disent, oh, ben, ça va bien, dis donc. Ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils prennent une molécule isolée, mais jamais... Il y a de prise en compte de l'interaction avec les autres molécules et donc l'effet cocktail et tout ça. Et en fait, ça fausse absolument tout parce que les métabolites, ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Et donc, c'est volontairement faussé. Après, il y a aussi plein de dossiers qui sont montés n'importe comment exprès pour retarder les analyses. Enfin, quand on rentre dans l'étude de ça, enfin, un peu demande à la génération future, à Greenpeace et tout ça, enfin, quand on étudie le fonctionnement de ces dossiers-là, mais c'est hallucinant. Enfin, c'est complètement torpillé dès le départ, on le sait. Enfin, vous êtes en colère. Donc l'effet cocktail qui est prépondérant parce que chimiquement c'est hyper important et qui est volontairement mis de côté dans les analyses et dans la transmission des infos et qu'en fait on parlait du cancer backlash et de tout ce discours qui va à l'encontre de la science en ce moment qui est un discours négationniste, enfin, c'est complètement dingue, commence à se faire entendre. Ah oui, mais l'effet cocktail, ça n'existe pas. Et en fait, les gars commencent à pointer dès qu'il y a un truc qui les emmerde, quoi, à le pointer pour dire que ça n'existe pas. On est sur du négationnisme de la science, c'est complètement fou. Oui, on arrive à un moment où, dans le Figaro, il y a deux semaines, on dit les historiens racontent n'importe quoi parce qu'ils ont le malheur de parler de la montée des fascismes dans les années 30. Il n'y a plus de science, il n'y a plus de vérité. Oui, on a basculé dans un monde de post-vérité trumpiste. C'est ce qui est en train de se passer, quoi, on en est là.
Oui, il suffit de dire le réel n'existe pas.
Ouais.
Et à partir de là, on peut tout faire.
Moi, en fait, j'ai fait des études de philo. En ce moment, je pense à un cours que j'avais eu en Kenya. Et sur le coup, ça m'avait paru super théorique. Et j'aurais jamais pensé le vivre. On parlait d'Anna Arendt.
Cette philosophe qui a assisté au procès Eichmann, voilà. Qui a théorisé sur la banalité du mal.
Précisément. On parlait de Kant aussi. Et du relativisme. Moi, j'avais un prof de philo qui s'intéressait beaucoup à la philosophie politique et à la Shoah. Parce qu'à l'époque, en fait, on étudiait la Shoah et on ne se faisait pas traiter d'antisémite parce qu'on, enfin, c'était détruire un monde un peu bizarre. On faisait de l'histoire. Et en fait, à l'époque, donc, on parlait de relativisme. Et je me souviens, ce prof qui nous avait dit le danger du relativisme, bah, c'est qu'à un moment, si tout se vaut, rien ne se vaut, et qu'on tombe bah, dans le tout est possible, et pourquoi pas le nazisme, et pourquoi pas tout ça, enfin bon bref. Et en fait, sur le coup, je m'étais dit, intellectuellement, il a raison, mais ça me paraissait complètement lunaire. Je me dis, comment il fait pour en arriver là? Pour nous dire ça, là, en 2000, on était en 2000, un truc comme ça. Je me disais, c'est hyper bien d'étudier Kant et Hannah Arendt en regardant la Shoah, tout ça, en 2000, mais je me disais, comment on peut se projeter dans cette possibilité? Ça me paraissait purement théorique. Et là, on est en 2026. Je veux dire, c'est depuis le Covid que j'entends de plus en plus de gens qui me disent bah, « et pourquoi pas ?»« Et pourquoi la Terre ne serait pas plate ?»« Et pourquoi pas ?» C'est là.
Est-ce que le Covid ne serait pas un complot médiatique qui se soigne à l'argile verte?
Mais
parce
oui.
Qu'il y a des sadiques savants chinois qui torturent des pangolins dans des bunkers secrets.
Non, on a voulu me refiler de l'argile aussi pour mon cancer. Non, mais j'en veux plus de l'argile. Ça soigne aussi les cancers du pancréas, Argile verte. Hein. Ouais,
ça m'a fait flipper dans cette grande vague anti-vax.
Ça avait commencé là, et en fait, là, ça a pris des proportions. Et en fait, ce qui me fait le plus peur, c'est que j'ai entendu des gens parfaitement rationnels, qui ont la tête sur les épaules, enfin, qui l'avaient, des enseignants plutôt solides, quoi. et qui de plus en plus me disent ah mais je suis plus sûre de rien après tout, pourquoi pas. Et en fait moi je dis pas que je suis sûre de tout, loin s'en faut, hein. Je suis tout en train de me remettre en question, de revoir tout, enfin, j'adore douter et j'avance toujours en doutant. En revanche, je crois pas qu'on puisse remettre en cause certains principes fondamentaux qui me paraissent pas complètement délirants, quelques principes kantiens en fait, je reviens à Kant, ça me paraît fou d'en être là. Est-ce qu'on peut encore ou pas dire que le bien c'est bien et que le mal c'est mal? En fait on en est là quoi. Parce que là, on n'arrive même plus à dire que la guerre c'est mal quand même. On en est quand même à dire que bombarder des enfants, que ce soit avec des armes, des bombes ou des glyphosates, tout ça, qu'on dit que c'est mal, on est antisémite. Et puis on se retrouve avec des problèmes où on n'arrive plus à dire le bien c'est bien, le mal c'est mal.
C'est ce qu'Orwell, qui était un flic, nous avait annoncé, hein, la vérité c'est le mensonge, la guerre c'est la paix,
c'est
c'était de la science-fiction quand on a lu ça gamin, mais puis ce truc là de toutes les vérités se valent, ton opinion vaut bien la mienne, c'est assez condescendant mais je mouche les gens en disant écoute toi t'as des opinions, moi j'ai des analyses.
Ah. Nous il nous est arrivé, Cancer Colère, d'avoir un souci avec ça parce que, donc ouais je vais pas balancer mais il y a des médias qui nous disent, vous venez et puis alors il y aura le pour et le contre, et nous là on dit non. Nous, on est pour la science et donc ça veut dire qu'on donne 50% de parole aux gens qui disent ce qui se passe et 50% à des platistes qui vont raconter n'importe quoi et que c'est la même chose et qu'il n'y a pas de problème avec ça et qu'on est OK pour dire c'est 50-50. Bah non. Et nous, on est obligé de dire à des médias qui sont censés représenter l'intérêt général, bah non. Bah non. Nous, on va pas sur un plateau comme ça. Moi, je vais pas discuter avec un platiste, quoi. C'est pas possible.
Quand je t'écoute parler, je me dis, voilà, est-ce que je ne serai pas assis à ta place prochainement avec quelqu'un qui me tendra ou pas un micro? Enfin, quand tu parles pour nous tous, tu parles pour moi aussi.
J'espère.
Donc, je te remercie.
Mais j'espère, en fait, c'est ce qu'on essaye de faire.
Ouais. Si y a une épidémie de cancer, on peut parler d'épidémie?
Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est les médecins, en fait, qui parlent. C'est l'INSERM parle d'épidémie.
Si une épidémie, c'est pas parce qu'on n'a pas été vertueux et que Dieu nous punit d'avoir été vilain ou je sais pas quoi.
C'est qu'il y a des. Une nuée de criquets. Non, c'est simplement, en fait, un truc logique qui est prévu. Ça fait 60 ans qu'on dit, bah non, en fait, quand on met des produits toxiques et dangereux qui sont fabriqués précisément pour tuer la vie, bah en fait, après, ça tue la vie. Enfin, en fait, c'est. Et en plus, ça bousille les sols, ça bousille le climat, ça est en train d'éclater la planète et tout dans son ensemble. C'est complètement mortifère. J'avais lu un anthropologue qui disait, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'en fait, l'être humain est en train de s'auto-détruire et que c'est complètement inédit. Il y a des gens qui disent, bah ouais, c'est normal, en fait, là, c'est OK, notre mode de fonctionnement, c'est de s'auto-détruire. Donc il disait, ouais, c'était inédit dans l'histoire de l'humanité, mais effectivement, peut-être même dans l'histoire de l'espèce animale et du vivant, quoi, de s'auto-détruire. Et c'est normal. Et quand on dit, nous, on n'est pas d'accord et on a juste envie de vivre, on est des éco-terroristes. Et donc il y en a qui finissent au tribunal, comme certains d'entre nous, ou qui finissent avec un œil en moins. Il y en a qui du coup ont peur d'aller en manif, parce que maintenant aller en manif c'est devenu dangereux, parce que maintenant aller dire qu'on est contre la guerre et contre la mort, et ben c'est risqué de finir à l'hôpital, en plus de finir au tribunal. C'est ça.
Toujours avec Caroline Proust du collectif Cancer Colère, on va repasser par le sénateur Duplomb qui remonte à la charge pour imposer l'acétamipride malgré la pétition à plus de 2 millions de signatures contre ce poison mortel.
C'est d'un cynisme complètement fou. En fait, ce qu'il dit, non mais le Conseil constitutionnel a retoqué sur la forme. Des problèmes de virgule dans le texte, il n'y a aucun problème sur le fond, donc si je ne vais pas passer par la porte, je leur fais passer par la fenêtre, en modifiant uniquement la forme, hein, avec le même fond. Lui, le 2 février, il a fait venir au Sénat toute une flopée de lobbyistes qui sont venus au Sénat pour raconter des trucs complètement fous, des lobbyistes identifiés, quoi. Quelques jours après, il y avait la mobilisation un peu partout en France, le week-end du 7 et du 8. Le 11, la mobilisation à Paris. Donc tout ça en prévision de débat sur la pétition de la première loi Duplomb. Tout ça, c'est dans un mouchoir de poche, quoi. Il y avait ce débat-là. Et lui, quelques jours avant, il se dit « Tiens, 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 je vais en remettre une couche ». Enfin, on a l'impression qu'il y a une grosse provocation. Quand on était à l'Assemblée le 11, il n'était même pas là, d'ailleurs. Mais ses petits camarades se laissaient pousser des ailes. Quelques jours avant, le 2, ils avaient vu le Sénat rempli de lobbyistes qui étaient là pour faire le job. Enfin voilà, on va revenir à la charge. Vous inquiétez pas les loulous, c'est pas parce que là, il y a la bande de gauchistes d'écolo qui a réussi à faire que le Conseil constitutionnel change une virgule, parce qu'en plus le reste de la loi est passé. Ce truc des gars qui s'en foutent, qui sont ultra cyniques. Et